Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
L'élection du pape à venir sera accompagnée par la force de la prière en ce temps de carême et de vacances du siège apostolique. Les catholiques sont invités à se recueillir alors que les préparatifs du conclave se poursuivent au Vatican. Tous les regards sont tournés vers Rome en attendant de connaître le nom du successeur de Benoît XVI. Compte rendu et commentaires dans ce magazine. Les préparatifs du conclave se sont poursuivis ce mercredi au Vatican. Dans la matinée, 153 cardinaux se sont retrouvés dans la salle du synode pour leur quatrième congrégation générale et ils continueront leur débat jeudi matin et soir. La date de l'entrée en conclave n'a pas encore été fixée. Mercredi matin, il y avait encore deux électeurs absents, un Polonais et un Vietnamien. Pour préparer l'élection du nouveau pape, les membres du Sacré Collège examinent ces jours-ci la situation de l'Église dans le monde, les rapports entre les dicastères et les épiscopes et le profil du futur pape. À la mi-journée, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a fait le point devant les journalistes. Le compte-rendu de Marie Duhamel.
Le père Lombardi l'a dit, il se répète, les cardinaux sont soucieux de se préparer au conclave de manière sérieuse et approfondie. Dès lors, il ne leur a pas semblé opportun ce mercredi encore de décider d'une date pour l'entrée en conclave. En outre, on connaît maintenant l'heure de l'arrivée à Rome du dernier cardinal électeur en provenance de Hanoï. Il sera là jeudi. Il semblait donc plus respectueux de l'attendre, affirme le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, avant de se décider. Il n'y a donc pas une volonté de retarder le conclave. D'ailleurs, jeudi, deux congrégations générales se tiendront à 9h30 et 17h pour accélérer le rythme, affirme le père Lombardi. Que se passerait-il si les cardinaux décidaient alors d'une date pour l'entrée en conclave? Souriant, le père Lombardi promet à la masse de journalistes assemblés autour de lui de les prévenir au plus vite. Plus sérieusement, le conclave ne pourrait pas commencer aussi sec, c'est-à-dire dès vendredi. D'abord, cela voudrait dire que tous les électeurs ont mis un terme à leur réflexion, à leur entretien. Ensuite, il faut encore qu'ils déménagent tous à Santa Marta, la résidence où les électeurs logeront durant le conclave. Enfin, la chapelle Sixtine, qui sera pour la 25e fois le témoin silencieux de l'élection du futur pape, n'est pas prête, les préparatifs ayant commencé seulement ce mardi. Le conclave sera-t-il court? Les congrégations s'allongeant dans le temps, demande un journaliste. Nous verrons, se contente de répondre le père Lombardi. Il n'y a en tout cas aucun lien de cause à effet. Aurons-nous un pape pour Pâques? Demande une autre journaliste. C'est une opinion personnelle. Un désir, mais pas une certitude, conclut le père Lombardi.
Lundi et mardi, les cardinaux des États-Unis avaient tenu deux conférences de presse au Collège nord-américain. Mercredi, elle était prévue, mais elle a été annulée avec un préavis d'une heure. Dans un communiqué, le porte-parole des évêques des États-Unis explique que cette décision a été prise à la suite de préoccupations formulées lors de la quatrième congrégation générale, mercredi matin. Par mesure de prévention, les évêques américains ont également décidé de ne plus donner d'interview à la presse. Sachez par ailleurs que la secrétaire d'État du Saint-Siège a publié son premier tweet sur son compte @terzaloggia. En ce moment particulièrement important, peut-on lire, la secrétaire d'État s'unit à toute l'Église dans la prière pour le futur pape. Au Vatican, l'heure est donc aux échanges, aux prises de contact, à l'étude des problèmes, notamment pour les électeurs venus de l'étranger, mais l'heure est aussi et peut-être surtout à la prière. À l'initiative des membres du Sacré Collège, une célébration s'est déroulée en début de soirée dans la basilique Saint-Pierre. Prière du chapelet, adoration eucharistique, suivie des vêpres, présidées par le cardinal archiprêtre Angelo Comastri. Les participants ont été invités à prier pour l'avenir de l'Église. En ces jours qui précèdent l'élection d'un nouveau pape, les initiatives de prière se multiplient. En France, Jean-Baptiste Maillard, auteur de Dieu et Internet et deux de ses amis, ont invité tous les croyants à dire une prière d'invocation à l'Esprit-Saint qui guide le choix des cardinaux. Son site d'invitation à la prière, Mission Conclave, a remporté un certain succès. Selon Jean-Baptiste Maillard, les catholiques éprouvent en ce moment le besoin de se serrer les coudes, de se souder. L'objectif est aussi de profiter des nouvelles technologies pour permettre aux croyants de s'investir impliqués dans cet événement si important pour la vie de l'Église. Par ailleurs, 5 jeunes Brésiliens ont lancé un site pour inviter à la prière et au jeûne afin de soutenir les cardinaux venus du monde entier. Ce site tient également à préciser que, quelle que soit la nationalité, l'âge et la personnalité du nouveau pape, les jeunes seront avec lui. Comme son prédécesseur Jean-Paul II, Benoît XVI a fait confiance aux jeunes, à leur générosité et à leurs aspirations à la vérité. Plus d'une fois, il les a appelés à se tourner vers Dieu pour recevoir le don de l'amour authentique. Je vous propose de réécouter un extrait du discours qu'il avait adressé aux jeunes Français en septembre 2008 lors de son voyage en France. Ils étaient réunis sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Vous êtes à l'âge de la générosité. Il est urgent de parler du Christ autour de vous, à vos familles, à vos amis, sur vos lieux d'études, de travail ou de loisirs. N'ayez pas peur, ayez le courage. Ayez le courage de vivre l'Évangile et l'audace de le proclamer. Pour cela, je vous encourage à voir les mots qu'il faut pour annoncer Dieu autour de vous, appuyant votre témoignage sur la force de l'Esprit, demandez dans la prière. Portez la bonne nouvelle aux jeunes de votre âge et aussi aux autres. Ils connaissent les turbulences des affections, le souci et l'incertitude face au travail et aux études. Ils affrontent des souffrances, ils font l'expérience de joie unique. Témoignez de Dieu, car en tant que jeunes, vous faites pleinement partie de la communauté catholique en vertu de votre baptême et en raison de la commune profession de foi. L'Église vous fait confiance, je tiens à vous le dire.
Benoît XVI à Paris en 2008. Désormais pape émérite, il séjourne, vous le savez, dans la résidence estivale de Castel Gandolfo en attendant la fin des travaux de réfection dans le monastère où il se retirera pour se consacrer à la prière. Loin de l'effervescence romaine et de la curiosité médiatique, il reste dans les cœurs d'un très grand nombre de fidèles. Benoît XVI est certes retiré, mais il est toujours très présent, notamment par la prière. C'est le sentiment du cardinal Robert Sarah. Nous l'avions interrogé il y a une dizaine de jours avant le début des congrégations générales. Pour le président du Conseil pontifical Corunum, la disparition de Benoît XVI dans le gouvernement de l'Église n'est pas une disparition. Au contraire, il va s'enfoncer dans la prière, dans un lien très profond avec Dieu. Et ce sera un soutien très important pour l'Église. On écoute le cardinal Robert Sarah.
Je pense que son action va continuer. Je pense que sa présence dans l'Église restera une présence très forte parce qu'il nous a laissé des documents importants, mais également il a permis d'être présent par sa prière qui est également un acte de charité. Et donc je pense que sa présence va continuer et en tout cas pour Corunum lui est très reconnaissant, surtout pour tout ce que nous avons fait depuis que moi je suis ici. Il y a eu d'abord Caritas Internationalis, il y a eu des nouveaux statuts, il y a un règlement, il y a un décret, des orientations nouvelles, il y a eu ensuite le motu proprio. Et tout ça pour nous est un grand don qu'il nous laisse pour pouvoir continuer le travail.
Charité et amour, ce sont des mots que Benoît XVI n'a jamais cessé de prononcer depuis le début de son pontificat.
Je crois que d'ailleurs au dernier synode, il a dit que la nouvelle évangélisation repose sur deux piliers, la foi et la charité. Et donc, je pense que nous devons prendre ces paroles-là au sérieux. Et l'Église ne pourra continuer sa mission qu'en approfondissant sa foi d'abord. Nous sommes à une année de foi. Approfondir sa foi, mais la foi, comme dit pas seulement Benoît XVI, mais Saint Paul, la foi se manifeste dans la charité, dans l'amour. Et donc les deux éléments sont essentiels pour la vie de l'Église, pour la mission de l'Église. Et Benoît XVI nous l'a rappelé de manière très très forte. Et donc nous devons lui dire un grand merci et nous pensons que sa disparition dans le gouvernement de l'Église n'est pas une disparition, au contraire, il va s'enfoncer dans la prière, dans un lien très profond avec Dieu et ce sera, à mon avis, un soutien très, très important pour l'Église aujourd'hui.
Benoît XVI aura été le pape de l'essentiel.
Moi, je crois. Il nous a, par exemple, dès son pontificat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que nous devrions rencontrer chacun personnellement le Christ, comme l'a fait saint Paul sur la route de Damas. C'est pourquoi, dès le départ, il nous a proposé une année saint Paul. Par tant qu'on vit sa foi de manière routinière, tant qu'on n'a pas rencontré le Christ personnellement comme saint Paul, rien ne se passe dans notre vie. Deuxième année, il a vu également qu'il y avait une grande crise au niveau d'église sur les plans sacerdotales. Il nous a proposé une année sacerdotale en nous demandant de regarder un prêtre très simple, très humble, Jean-Marie Vianney. Et parce que je pense, sans prêtre, il n'y a pas d'église. Parce que c'est par les prêtres qu'on peut célébrer les sacrements. Et donc, c'est là aussi l'essentiel. Il a également constaté que nous manquons de foi. Qu'on soit prêtre, qu'on soit évêque, qu'on soit laïc, nous avons besoin de crier vers le Seigneur. Seigneur, augmente notre foi. Et il a demandé qu'on s'arrête pendant une année pour qu'on puisse approfondir notre foi. Et je pense que vraiment, il nous a porté vers l'essentiel. Notre rencontre avec le Christ, la centralité du sacerdoce dans l'Église, et une foi toujours plus grande, mais qui se manifeste, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers la charité. C'est ça l'essentiel, à mon avis. Il a été vraiment le pape de l'essentiel. Nous devons prier pour le Saint-Père, pour que le Seigneur lui donne une bonne santé, parce qu'il a encore beaucoup à donner à l'Église, malgré qu'il sera dans le silence. Et prier également pour l'Église, pour que son message reste ancré en nous et qu'on puisse prendre le courage d'approfondir tout ce qu'il nous a laissé comme enseignement.
Le cardinal Robert Sarra, membre du Sacré Collège, interrogé par Hélène Destombes. Il attend sa croix au Vatican, où les cardinaux prennent le temps d'examiner les différents dossiers avant de convoquer un conclave pour élire le successeur de Benoît XVI. D'autant que 69 électeurs vivent leur premier conclave. Or, cette longue réflexion que de nombreux cardinaux jugent nécessaire ne fait qu'exciter la curiosité des journalistes. Jean-Baptiste Cocagne.
Souvent ignorés des médias, parfois tournés en dérision, les plus hauts responsables de l'Église catholique se retrouve ces jours-ci sous les feux des projecteurs, suivis à la trace en quelque sorte. Habituellement arpentés par des touristes, des soutanes et des Romains désabusés qui en ont vu d'autres, les rues qui entourent le Vatican ont été envahies par une meute de journalistes et de photographes à l'affût, et parfois à l'assaut, non seulement des calottes rouges, mais de tout ce qui peut avoir un lien avec le Vatican. De quoi agacer les vaticanistes chevronnés, habitués des sacri palazzi, et scandalisés par la méconnaissance dans ce domaine de leurs confrères venus d'ailleurs, qui ne savent pas toujours comment s'y prendre. Dans le pittoresque Borgo Pio, parallèle de l'avenue de la Conciliazione, les tables des restaurants et des cafés sont monopolisées par des journalistes en panne d'information, parfois en plein conciliabule avec des prélats, tour à tour inquiets ou amusés. 5000 journalistes ont été accrédités et les prix des appartements et des terrasses n'ont cessé de grimper vertigineusement, tandis que taxis et vendeurs ambulants ont été contraints de se déplacer pour céder la place aux caméras de télévision. À une époque où le fait religieux suscite l'indifférence, voire l'hostilité, l'Église institution continue de séduire et de susciter curiosité et fantasmes. Dans un monde sans Dieu, le sacré fait encore recette. Et alors que la liste des papabili, établie par des commentateurs de plus en plus désorientés, ne cesse de croître, les futurs participants au conclave savent qu'ils peuvent compter, fait exceptionnel, sur les prières d'un pape émérite.
Parmi les hauts prélats venus à Rome pour participer au conclave, le cardinal Urosa Savino, archevêque de Caracas. Il a annoncé son intention de célébrer une messe solennelle en mémoire d'Hugo Chavez. Le chef de l'État vénézuélien est mort mardi à Caracas à 58 ans, des suites d'un cancer, après 14 années d'un pouvoir sans partage. Dans un communiqué envoyé à l'agence Vatican Fides, le cardinal Urosa invite tous les ressortissants vénézuéliens présents à Rome à venir prier pour le président défunt. L'archevêque de Caracas a par ailleurs présenté ses condoléances à la famille d'Hugo Chavez et demandé aux autorités vénézuéliennes d'appliquer les mécanismes prévus par la Constitution. Il exhorte tous les secteurs de la société à promouvoir le calme et l'harmonie du peuple et à éviter toute violence. D'autre part, un prélat vénézuélien de la Congrégation pour la doctrine de la foi a affirmé dans une interview à l'agence CIR qu'Hugo Chavez laissera une marque profonde dans l'histoire du Venezuela et de toute l'Amérique latine. Monseigneur Gérard Cadierès reconnaît que le président défunt s'était forcé d'améliorer la situation des plus pauvres et de favoriser l'accès de tous aux services de santé, à l'éducation et à l'assistance. Reste à savoir si ces méthodes ont été justes ou pas. Les funérailles nationales sont prévues vendredi, une nouvelle élection présidentielle doit avoir lieu dans les 30 jours. La Conférence européenne des commissions Justice et Paix Europe a publié il y a quelques jours un appel pour une vision à long terme qui mette l'économie au service de la société. Comme chaque année, Justice et Paix Europe s'empare d'un sujet de société pour interpeller les pouvoirs publics et l'Église. En 2013, face à la montée de la crise, les 31 commissions nationales ont choisi de porter leur action concertée sur la question financière mondiale. L'appel de Justice et Paix Europe est accompagné d'une liste de mesures concrètes à mettre en place, comme la création d'un code commun d'éthique pour les institutions financières, afin de parvenir à un modèle économique plus juste et durable. Denis Viennot, secrétaire général de Justice et Paix France.
Conseil pontifical Justice et Paix plaidait à nouveau pour la création d'une autorité publique mondiale à vocation universelle, un peu comme dans Pacem in Terris, c'est le 50e anniversaire, hein, dans Pacem in Terris, Jean XXIII parlait de cette autorité publique mondiale. Là, on était plutôt dans le domaine financier, avec un certain nombre de propositions très précises, dans la lutte contre les paradis fiscaux, sur la transparence des industries extractives, etc., que nous avons repris ça dans un contexte, je dirais, européen en sens large, pour pointer finalement la responsabilité des gouvernements et la nécessité de régulation nouvelle dans un contexte où on a une économie qui part, on pourrait dire, un peu à la dérive. Quand on regarde l'évolution du système bancaire, c'est absolument terrorisant. C'est-à-dire, on a là des institutions qui sont normalement au service de ce qu'on pourrait appeler le bien commun et qui font tout et n'importe quoi dans une espèce de recherche identique d'un profit scandaleux inadmissible. Et les banques recommencent aujourd'hui à faire les bêtises qu'elles ont faites il y a 5 ans. Donc là, il y a nécessité, je crois, de plaider, c'est ce qu'on fait, pour une vraie régulation et un vrai croisement entre, je dirais, activité économique, éthique, au service de la justice, de la lutte contre la pauvreté dans une société plus solidaire.
Votre appel veut mettre l'économie au service de la société. Aujourd'hui, selon vous, c'est véritablement le contraire, c'est-à-dire que c'est la société qui est au service de l'économie?
C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que les taux de rendement financier qu'on voulait avoir il y a 5-6 ans, de l'ordre de 15% par an, c'était parfaitement destructeur. Il n'y a qu'à prendre, par exemple, la question des rémunérations. Enfin, je veux dire, on est dans un monde, disons, un monde de fous, où on considère normal que des gens aient des salaires absolument extravagants et qu'à côté vivent des gens dans une misère ou dans beaucoup de pays européens, on leur assure un minimum de 300 ou 400 ou 500 euros par mois. Enfin, on touche alors à la fois au ridicule et plutôt au scandale moral, c'est ça que je veux dire. Quand on regarde un peu les questions de répartition, les questions de pauvreté, c'est pour ça que, je dirais, nous plaidons pour une espèce de renversement. On veut évidemment une activité économique forte, développée, progressive, moderne, etc., mais au service des exigences des citoyens, des exigences de la justice. Il y a là, je crois, à réfléchir aujourd'hui à la responsabilité des gouvernements, des États, dans de la régulation légitime.
Concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour répondre à cet appel?
Cet appel, c'est un peu, je dirais, un cri d'alarme, c'est un peu un éveil. Et donc, dans l'appel, nous proposons un certain nombre de mesures qui sont des mesures de bon sens, par exemple de développer des réflexions éthiques entre les gouvernements et les entreprises, éventuellement réfléchir à des organes internationaux de régulation, à lutter contre les paradis fiscaux, obliger les entreprises à être plus transparentes, et également, comme le faisait d'ailleurs le Conseil de justice et paix, le rappel de l'idée d'une taxe qui est en train de se mettre en place doucement sur la spéculation financière internationale.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. Le quotidien des évêques italiens, Avvenire, a lancé une pétition en faveur de la libération d'Asia Bibi, une chrétienne pakistanaise condamnée à mort pour blasphème. Cette ouvrière agricole, mère de 5 enfants, est détenue depuis plus de 1350 jours dans une cellule dépourvue de fenêtres. Un appel au président Zardari a été remis officiellement à l'ambassade du Pakistan à Rome. Les quelques 30 000 signataires, hommes et femmes de tous âges, sont déterminés à lutter contre l'oppression. Dans toute la péninsule, des curés de paroisse ont prêté leur concours à cette opération qui avait également reçu l'appui du ministre des Affaires étrangères du gouvernement Monti. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur vos tablettes et smartphones. Vous pourrez y suivre l'actualité du pape en direct et en vidéo grâce à notre application en français, lancé il y a quelques jours justement pour vous permettre de suivre les événements en cours au Vatican. Merci de votre fidélité.